On a commencé donc le livre des rois la semaine dernière. On est parti donc pour le parcourir. Et la semaine dernière, Salomon a donc été intronisé roi. Et malgré le complot de son frère, Adonija, qui aurait bien aimé être roi, mais tel n'était pas le plan de Dieu. Ça ne devait pas être l'aîné, là, ça devait être Salomon, le fils de David, celui que Dieu avait choisi. Et donc il a été établi roi, ou un roi. Et bien maintenant, je vous invite à prendre le chapitre 2. Qu'est-ce qui va se passer maintenant qu'il est roi ? Je vous invite à prendre le début du règne de Salomon. Et c'est dans le chapitre 2, je vais le lire en deux fois dans mon message. Premièrement, je lirai jusqu'au verset 12, verset 1 jusqu'au verset 12, et un peu plus tard, donc, la suite. Premier livre des rois, ouais, chapitre 2. Je vais prier. Père, je te remercie pour ta parole, parce qu'elle nous montre comment tu es, Seigneur, Dieu de justice et Dieu de grâce. Dieu de grâce et Dieu de justice. Seigneur, merci parce que tu travailles en nous et je te prie que ta parole pénètre nos cœurs, Seigneur. Seigneur, que tu nous aides à te voir, Seigneur, dans ces textes. Voilà, merci Seigneur de nous débarrasser de tout ce qui nous pèse, de tout ce qui nous empêcherait d'être attentifs, et que ta parole agisse en nous, Seigneur. Merci de nous bénir, ton Église, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et je m'appuie sur toi pour ce message. Amen. Donc chapitre 2. David approchait de sa fin et il donna ses ordres à son fils Salomon en disant « Moi je m'en vais où va tout ce qui est terrestre. Sois fort et sois un homme. Observe l'ordre de l'Éternel ton Dieu en marchant dans ses voies et en gardant ses prescriptions, ses commandements, ses ordonnances et ses préceptes selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu aies du succès dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. » Et afin que l'Éternel accomplisse la parole qu'il a prononcée sur moi. Si tes fils prennent garde à leur voie en marchant dans la vérité devant moi, de tout leur cœur et de toute leur âme, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Tu sais bien ce que m'a fait Joab, fils de Tseruya, ce qu'il a fait à deux chefs des armées d'Israël, à Abner, fils de Ner, et à Amasa, fils de Yéter. Il les a tués, il a versé pendant la paix le sang de la guerre, et il a mis le sang de la guerre sur la ceinture qu'il avait au rein et sur la sandale qu'il avait au pied. Tu agiras selon ta sagesse, et tu ne laisseras pas ses cheveux blancs descendre en paix dans le séjour des morts. Tu traiteras avec bienveillance les fils de Barzillai, le Galaadite. Ils seront de ceux qui mangent à ta table, car c'est ainsi qu'ils sont venus au devant de moi lorsque je fuyais devant ton frère Absalom. Voici près de toi Shimei, fils de Guéra, benjaminite, de Baourim. Il a prononcé contre moi des malédictions violentes le jour où j'allais à Mahanaïm. Mais il descendit à ma rencontre vers le Jourdain, et je lui fis un serment par l'Éternel en disant « Je ne te ferai pas mourir par l'épée. Maintenant, ne le laisse pas impuni, car tu es un homme sage, et tu sais comment tu dois le traiter. Tu feras que ses cheveux blancs descendent ensanglantés dans le séjour des morts. » David se coucha avec ses pères, et il fut enterré dans la cité de David. Le temps que David régna sur Israël fut de 40 ans. À Hébron, il régna 7 ans, et à Jérusalem, il régna 33 ans. Salomon siégea sur le trône de son père David, et son règne fut tout à fait affermi. Donc on est dans l'affermissement du règne de Salomon. De quelle manière ? Eh bien, il va falloir régler les comptes. Le titre que j'ai donné à mon message, c'est « Règlement de comptes ». Et on va voir de quel compte il s'agit. « Règlement de comptes ». Parce que, eh bien, la vérité centrale que j'ai formulée ainsi, c'est que les promesses divines garantissent toute justice en son temps. Les promesses divines garantissent toute justice en son temps. C'est ce que nous verrons en deux points. Premièrement, on verra que les promesses divines garantissent toute justice en son temps par le jugement pour ceux qui méprisent la grâce de Dieu. Et deuxièmement, nous verrons que les promesses divines garantissent toute justice en son temps par la grâce pour ceux qui se repentent. Donc voyons premièrement, les promesses divines garantissent toute justice en son temps par le jugement pour ceux qui méprisent la grâce de Dieu. Voilà donc Salomon qui a été établi roi à la place de son père, le roi David. Et donc David va laisser des consignes à son fils Salomon. Des recommandations qui ont d'autant plus de poids que ce sont ses dernières volontés, les dernières volontés d'un parent mourant à son fils, et qui plus est, les dernières volontés d'un parent qui est roi. Et la première de ces recommandations, c'est quoi ? Sois fort, sois un homme. Comment ? En observant la loi mosaïque. Et regardez tous les mots qui sont utilisés pour décrire la loi de Dieu. Versets 2 et 3. Ses prescriptions, ses commandements, ses ordonnances et ses préceptes. En résumé, on pourrait dire « Garde la parole de Dieu. Et tu auras du succès dans ce que tu entreprendras. » Et ça nous rappelle ce que Dieu a dit à Josué quand il allait faire la conquête du pays de Canaan. Voici ce qu'il lui a dit, je le relis. En Josué chapitre 1, versets 7 et 8. « Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu as du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. » Et David connaissait ces textes. Et effectivement, les rois devaient copier la loi de Moïse. C'était une ordonnance qui leur avait été donnée. Pour la connaître, ils devaient la copier pour eux-mêmes. Cette recommandation que David donne à Salomon, elle vaut aussi pour ses fils après lui. Verset 4. « Et afin que l'Éternel accomplisse la parole qu'il a prononcée sur moi, si tes fils prennent garde à leur voie en marchant dans la vérité devant moi, de tout leur cœur et de toute leur âme, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. » C'était la promesse que Dieu avait faite à David. Et David voulait voir s'accomplir cette promesse. Il voulait voir accomplir la promesse de... C'est une alliance. La promesse de l'alliance que Dieu avait faite avec lui et sa descendance. Et on la retrouve, lorsque Dieu a fait cette promesse à David, on la trouve dans 2 Samuel 7, verset 16, que je vous lis. « Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. » Promesse de Dieu à David, qu'il tiendra. C'est intéressant de noter qu'ici, Israël a fait l'expérience d'une expérience nouvelle de l'instauration d'une dynastie. Saül, qui a précédé David, n'était pas de la famille de David, hein, pas de la même tribu. Or là, eh bien, c'est le début d'une dynastie, de roi en roi, de fils en fils. C'est la première fois que le fils du roi succédait au roi. Alors, que se passe-t-il ? Donc David a fait des recommandations à son fils Salomon. Eh bien, celle qui est cruciale, de garder la parole de Dieu. Eh bien, qu'est-ce qu'il s'agit maintenant pour Salomon de faire ? Il ne s'agit pas de s'asseoir tranquillement sur le trône et d'attendre que ça se passe. C'est Dieu qui avait mis David, puis Salomon, sur le trône. C'est Dieu qui a voulu cela. Dieu va affermir le règne de Salomon. Oui, mais il va falloir que Salomon fasse sa part. Autant Salomon n'a rien eu à faire d'autre qu'à se conformer aux ordres de David pour être établi roi à sa place, autant maintenant, il va devoir agir. Il va devoir agir pour affermir son règne, à commencer par quoi ? Qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Comment son règne va-t-il débuter ? Eh bien, son règne va commencer par faire justice. Il était nécessaire de parler de jugement. Sans quoi ? Pas de jugement, pas de justice. Pas de justice, pas de paix. Un royaume s'affermit dans la justice. Et si vous aspirez à la justice dans ce monde, elle viendra. On entend tellement d'injustice. Pour que le règne de Salomon soit affermi, il fallait que justice soit faite sur les crimes laissés impunis à l'égard de son père David. Parce que les promesses divines garantissent toute justice en son temps. Et donc David lui laisse les consignes à Salomon pour que justice soit faite. Sur qui ? Premièrement, à commencer par Joab, le chef de son armée. N'oublions pas, Joab, il faisait partie des conjurés qui ont essayé d'introniser Adonijah à la place de Salomon, à l'insu du roi David, en cachette. Et Joab, clairement, il ne s'était pas repenti d'un double meurtre qu'il avait commis auparavant. Il avait assassiné deux chefs de l'armée, Abner et Amasa. Il les avait assassinés en temps de paix, par vengeance et par jalousie. C'était des meurtres. Vous pouvez voir cela en 2 Samuel 20, versets 8 à 10, et en chapitre 3, verset 27, donc du deuxième livre de Samuel. Pourtant, Joab, il était encore dans l'entourage du roi. Ça veut dire que David lui avait fait grâce. Il était sous la grâce, il était encore sous la grâce. Et pourtant, ça ne l'a pas empêché de comploter contre le fils de David, contre Salomon. Il a méprisé la grâce de Dieu. Alors le jugement va le rattraper. Les crimes laissés impunis et non confessés seront jugés même longtemps après. Pourquoi ? Parce que Dieu est juste. Et le temps, frères et sœurs, le temps n'efface pas les péchés. On se dit, les années passent, on n'y pense plus. Le temps n'efface pas les péchés, parce que Dieu est juste. Si les crimes, Dieu est juste et toute injustice trouvera sa rétribution. Dieu est juste et non seulement il punit le mal, mais aussi il rétribue la bienveillance, la bonté. Ce qu'ont manifesté ceux qui sont cités ici, à savoir les fils de Barzillai. Dieu veut rendre aux fils de Barzillai la bienveillance cette fois qu'ils lui ont témoigné lorsqu'ils sont venus au devant de lui alors que David fuyait son fils Absalom. Vous pouvez trouver cela en 2 Samuel chapitre 17, les versets 27 à 29 et chapitre 19 verset 32. Ils vont avoir un juste retour. Les promesses divines garantissent toute justice en son temps. Il est juste qu'ils récoltent ce qu'ils ont semé, cette fois en bien. Puis vient le tour d'une autre personne, Shimei. Shimei, il ne faisait pas partie des conjurés qui ont voulu instaurer Adonija. Mais pourtant, Shimei devait être exécuté pour avoir maudit le roi David, choisi par Dieu, lorsqu'il lui a lancé les pierres. Lorsque David fuyait Absalom. Je vous donne les références, si vous voulez vérifier à la maison, vous pourrez les lire. C'est en 2 Samuel, chapitre 16, versets 5 à 13. Et c'est très clair, la loi de Moïse punissait de maudire le roi. Je lis Exode, chapitre 22, verset 28. « Tu ne maudiras point Dieu, et tu ne maudiras point le prince de ton peuple. » Ce qu'avait fait Shimei, il avait maudit David. David lui avait fait alors le serment qu'il ne mourrait point, qu'il ne le ferait pas mourir, pardon, que lui ne le ferait pas mourir. C'est en 2 Samuel 19, verset 23. Et il lui a fait grâce. Peut-être que David considérait que la malédiction que Shimei lui a lancée, c'était une malédiction. Peut-être qu'il considérait que la malédiction était toujours valable et qu'elle devait être détournée de lui. Aussi, il va laisser à Salomon le soin de juger Shimei selon sa sagesse. Idem pour Joab. Il va laisser son fils Salomon les juger d'après sa sagesse. Puis, voilà, donc ça, David a donc donné des conseils à son fils Salomon. Il sait ce qu'il a à faire. Et puis David, eh bien voilà la fin de son parcours sur terre, fin du règne de David. Son règne a duré 40 ans. Et voilà que David s'éteint, le roi David. Le roi David, un homme pas parfait, mais un homme selon le cœur de Dieu, nous dit la Bible, qui aimait Dieu et qui a bien reconnu ses torts et ses péchés. Il savait où il irait, au ciel, en attendant la résurrection. Alors, avant de mourir, donc, David avait pris le temps et le soin de donner des instructions à son fils Salomon en ce qui concerne Joab et Shimei. Et David, il ne savait pas ce qui allait se passer, puisqu'il est mort avant. Il ne savait pas que Adonija recommencerait à comploter contre Salomon. Alors, est-ce que Salomon, David ne lui a pas donné de consigne pour Adonija? Est-ce que Salomon allait faire ce qu'il faut pour ce complot? Et bien, c'est Salomon qui prendra des sanctions contre Adonija et aussi contre le sacrificateur Abiathar qui s'était joint à Adonija. Je poursuis la lecture du texte. C'est à partir du verset 13, je dirai jusqu'à la fin du chapitre 2. Donc, 1 roi, chapitre 2, à partir du verset 13. Voici donc ce qui va se passer. Après la mort du roi David, que David lui a donné et donné à Salomon les instructions. 1 roi, 2, verset 13 et suivant. Adonija, fils de Haggith, vint vers Bathsheba, mère de Salomon. Elle lui dit, « Viens-tu pour la paix ?» Il répondit, « Pour la paix. » Et il ajouta, « J'ai un mot à te dire. » Elle dit, « Parle. » Il dit, « Tu sais que la royauté m'appartenait et que tout Israël portait ses regards sur moi pour me faire régner. Mais la royauté a tourné pour appartenir à mon frère, car elle est à lui de par l'Éternel. Maintenant, je te fais une seule demande, ne me repousse pas. » Elle lui répondit, « Parle. » Il dit, « Dis, je te prie au roi Salomon, car il ne te repoussera pas, qu'il me donne pour femme Abishag, la Sunamite. » Bathsheba dit, « Bien, je parlerai moi-même au roi à ton sujet. » Bathsheba se rendit auprès du roi Salomon pour lui parler au sujet d'Adonija. Le roi se leva pour aller à sa rencontre. Il se prosterna devant elle et s'assit sur son trône. Il plaça un trône pour la mère du roi et elle s'assit à sa droite. Puis elle dit, « J'ai une seule petite demande à te faire, ne me repousse pas. » Et le roi lui dit, « Demande ma mère, car je ne te repousserai pas. » Elle dit, « Qu'Abishag, la Sunamite, soit donnée pour femme à Adonija, ton frère. » Le roi Salomon répondit à sa mère, « Pourquoi demandes-tu Abishag, la Sunamite, pour Adonija ? Demande donc la royauté pour lui, car il est mon frère aîné, pour lui, pour le sacrificateur Abiathar et pour Joab, fils de Tseruya. » Alors le roi Salomon fit un serment par l'Éternel en disant, « Que Dieu me fasse ceci et qu'il ajoute encore cela, si ce n'est pas au prix de sa vie qu'Adonija a prononcé cette parole. » Verset 24, « Maintenant l'Éternel est vivant. » Lui qui m'a affermi et m'a fait asseoir sur le trône de mon père David et qui m'a donné une maison comme il l'avait dit. Aujourd'hui, Adonija sera mis à mort. Le roi Salomon envoya Benayahu, fils de Jehoiada, qui le frappa. Et Adonija mourut. Le roi dit ensuite au sacrificateur Abiathar, « Va-t'en à Anatot, dans tes terres, car tu mérites la mort. Mais je ne te ferai pas mourir aujourd'hui, parce que tu as porté l'arche du Seigneur, l'Éternel, devant mon père David, et parce que tu as eu part à tous les tourments de mon père. » Ainsi Salomon chassa Abiathar du sacerdoce de l'Éternel, afin d'accomplir la parole que l'Éternel avait prononcée sur la maison d'Élie. Donc il s'agit c'est pas le prophète Élie, c'est le sacrificateur Élie, avait prononcé sur la maison d'Élie à Silo. La nouvelle en parvint à Joab. Or, Joab s'était rallié à Adonija, sans toutefois s'être rallié à Absalom. Et Joab s'enfuit en direction de la tente de l'Éternel et saisit les cornes de l'autel. On rapporta au roi Salomon que Joab s'était enfui en direction de la tente de l'Éternel et qu'il était à côté de l'autel. Alors Salomon envoya Benayahu, fils de Jehoiada, en lui disant « Va, frappe-le ». Benayahu arriva à la tente de l'Éternel et dit à Joab « Ainsi parle le roi, sors ». Mais il répondit « Non, c'est ici que je mourrai ». Benayahu rapporta la chose au roi en disant « C'est ici, c'est ainsi qu'a parlé Joab, et c'est ainsi qu'il m'a répondu ». Le roi lui dit « Fais comme il a dit, frappe-le, et tu l'enseveliras. Tu l'écarteras ainsi de moi et de ma famille. Le sang que Joab a répandu sans cause, tu l'écarteras ainsi de moi et de ma famille, le sang que Joab a répandu sans cause. L'Éternel fera retomber son sang sur sa tête. » Parce qu'il a frappé deux hommes plus justes et meilleurs que lui, et les a tués par l'épée, sans que mon père David le sache. Abner, fils de Ner, chef de l'armée d'Israël, et Amasa, fils de Yéter, chef de l'armée de Juda. Leur sang retombera sur la tête de Joab, et sur la tête de sa descendance pour toujours. Mais il y aura paix pour toujours, de par l'Éternel, pour David, pour sa descendance, pour sa maison et pour son trône. Benayahu, fils de Jehoiada, monta, frappa Joab et le fit mourir. Il fut enseveli dans sa maison au désert. À sa place, le roi mit à la tête de l'armée Benayahu, fils de Jehoiada, et il mit le sacrificateur Tsadok à la place d'Abiathar. Le roi envoya appeler Shimei et lui dit « Bâtis pour toi une maison à Jérusalem, tu y habiteras et tu n'en sortiras pas d'un côté ou d'autre, de côté ou d'autre. Sache bien que tu mourras le jour où tu sortiras et passeras la vallée du Cédron. Ton sang sera sur ta tête. » Shimei répondit au roi, « C'est bien, ton serviteur fera ce qu'a dit mon seigneur, le roi. » Shimei habita longtemps à Jérusalem. Au bout de 3 ans, il arriva que 2 serviteurs de Shimei s'enfuirent chez Akish, fils de Maaka, roi de Gath. On le rapporta à Shimei en disant, « Voici que tes serviteurs sont à Gath. » Verset 40. Shimei se leva, sella son âne et s'en alla à Gath chez Akish pour chercher ses serviteurs. Shimei donc s'en alla et ramena ses serviteurs de Gath. On rapporta à Salomon que Shimei était allé à Jérusalem à Gath et qu'il était de retour. Le roi envoya appeler Shimei et lui dit « Ne t'ai-je pas fait prêter serment par l'Éternel et ne t'ai-je pas attesté ceci ? Sache bien que tu mourras le jour où tu sortiras pour aller de côté ou d'autre. » Et ne m'as-tu pas répondu « C'est bien, j'ai entendu. » Pourquoi donc n'as-tu pas observé le serment de l'Éternel et l'ordre que je t'avais donné ? Et le roi dit à Shimei : Tu sais tout le mal que ton cœur a conscience d'avoir fait à mon père David. L'Éternel fera retomber ta méchanceté sur ta tête. Mais le roi Salomon est béni et le trône de David sera pour toujours affermi devant l'Éternel. Le roi donna ses ordres à Benaïaou, fils de Jehoiada. Il sortit et frappa Shimei qui mourut. La royauté fut ainsi affermie dans la main de Salomon. Amen. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Salomon est donc assis sur le trône et c'est Dieu lui-même qui va affermir son règne. Comment ? Par le jugement des ennemis de son père David. Et Salomon le sait, il sait que c'est Dieu qui l'a mis sur le trône. Et Dieu va affermir son règne par le jugement, par la justice. Adonijah, regardez le verset 5, il savait très bien que c'était Dieu qui avait mis son frère Salomon à la place du roi David sur le trône. Il le savait, ça ne l'a pas empêché de revenir à la charge, de reconvoiter le trône de David. Il convoitait encore le trône. Il ne s'est pas repenti. David, Salomon lui avait fait grâce, il ne s'était pas repenti. Il a méprisé la grâce de Dieu dont il avait été l'objet. Et ça allait lui coûter la vie. Innocemment, ou plutôt insidieusement, par l'entremise de Bathsheba, il va envoyer un message à son frère Salomon. On voit bien le personnage. Il n'agit pas de face. Il va utiliser sa mère pour adoucir le cœur de son frère. Alors, Bathsheba, elle va aller voir Salomon et elle va lui dire : J'ai une seule petite demande à te faire. Cette petite demande, c'était que la petite demande faite à Salomon, c'était que Abishag, vous vous souvenez, au début du chapitre 1, c'était l'infirmière qu'on avait mis au chevet de David pour s'occuper de lui, et que David avait respecté, il n'avait pas couché avec elle. Eh bien, la ruse d'Abishag cette fois, c'est de demander l'infirmière de son père pour femme en mariage. Bathsheba, elle ne distinguait pas quelles étaient les intentions d'Adonijah. Mais Salomon n'est pas dupe. Et il voit là la vérité, il voit là une ultime tentative d'Adonijah de s'emparer de la royauté. Et évidemment, ça va le mettre en colère. Et là, c'en est trop. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il décide de le faire mourir par son serviteur Benaïaou. Salomon décide aussi du jugement du sacrificateur Abiathar, selon les instructions de son père, David. Abiathar avait soutenu le complot d'Adonijah. Abiathar, qui était aux côtés de David à ses débuts, David lui avait dit, en Samuel 22, verset 23, « Reste avec moi, ne crains rien », quand il était en fuite devant le roi Saül. Il était aux côtés de David. Il lui avait dit cette parole, « Reste avec moi, ne crains rien ». Est-ce que Abiathar avait oublié les bons soins de David ? Abiathar va être chassé du sacerdoce. C'était un prêtre. Et là encore, c'est l'accomplissement d'un jugement. Celui que Dieu avait prononcé sur la maison du sacrificateur Élie. Non pas le prophète Élie, hein, il ne faut pas les confondre. Élie n'avait pas, il était prêtre, et il y avait ses fils qui étaient au temple et qui couchaient avec les femmes qui venaient apporter des sacrifices. C'était très grave. Et Élie n'avait pas repris ses enfants, ou il les avait repris très mollement. Et Dieu avait annoncé un jugement que je vous lis, c'est dans 1 Samuel chapitre 3, 2, verset 30. 1 Samuel 2, verset 30, c'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Les promesses divines garantissent toute justice en son temps. Abiathar serait chassé de la sacrificature, de la prêtrise. Et si vous regardez Jésus, alors, dans la loi, Dieu avait institué la tribu de Moïse, la tribu de Lévi, pour faire le service du culte. Abiathar était de cette tribu. On ne connaît pas son lien de parenté avec Élie. Mais là, c'est clair que la sacrificature, elle est déplacée. Elle ne sera plus confiée à la tribu de Lévi. Jésus, notre grand sacrificateur, il n'est pas issu de la tribu de Lévi, il est issu de la tribu de Judas. Alors Abiathar sera non pas exécuté, il sera banni du royaume. Abiathar, tout prêtre qu'il était, il ne pouvait pas s'abriter derrière son titre de religieux, de prêtre, de sacrificateur. Les promesses divines garantissent toute justice pour tout le monde en son temps. La nouvelle parvient aux oreilles de Joab. Il a appris le renvoi d'Abiathar. Alors là, il commence à s'inquiéter. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire comme Adonijah. Il va aller au temple, il va se réfugier près des cornes de l'autel des sacrifices. Et la loi le permettait. Mais attention, la loi permettait cela lorsqu'il y avait eu un homicide involontaire. En cas d'homicide involontaire. Or, Joab avait commis un double meurtre volontairement en temps de paix. Et il va s'abriter là, sur les cornes de l'autel. Exode, chapitre 21, verset 14, nous dit, mais concernant s'abriter aux cornes de l'autel, « Mais si quelqu'un agit méchamment contre son prochain en employant la ruse pour le tuer, tu l'arracheras même de mon autel pour le faire mourir. » Donc là, c'est pas là qu'il allait trouver refuge, qu'il pouvait trouver refuge, Joab. Benaïaou va le sommer de s'éloigner de l'autel. Et Job, on l'imagine, s'accrochant au corps de l'autel, il répond non, qu'il est même prêt à y mourir. Benaïaou va le dire à Salomon, et Salomon, eh bien, il lui fait donner la mort par Benaïaou. Selon, il a dit qu'il était prêt à mourir, Joab. Et donc il meurt, tué là, sur l'autel. Et on l'enterra dans sa propre maison au désert. Et ainsi furent vengés les meurtres de Abner et Amasa, des hommes de valeur, des hommes justes, ces meurtres que Joab avait perpétrés en cachette du roi David. La justice l'a rattrapé. Si c'était en cachette du roi David, on ne peut rien cacher à Dieu. Les promesses divines garantissent toute justice en son temps. Ni le titre de prêtre, ni l'autel, le lieu du sacrifice religieux, n'offrent de protection à ceux qui ne veulent pas se repentir de leur transgression de la loi divine. Il y en a quand même qui sont restés fidèles à David. Benaïaou, il est resté fidèle à David sans faillir depuis l'époque où depuis ses débuts qu'il avait accompagné, depuis l'époque de Saül. Et avec courage, Benaïaou avait montré qu'il était un homme de valeur. Et c'est lui qui va succéder à Joab comme chef de l'armée. Un autre fidèle à David, c'était le sacrificateur Tsadok. Et c'est Tsadok qui va succéder à Abiathar comme sacrificateur. Alors maintenant, il reste encore quelqu'un, il reste encore Shimei. Il fallait encore que la justice s'accomplisse sur Shimei, selon le souhait de David, ce que David avait dit à Salomon. Et David a laissé Salomon faire la justice, selon sa sagesse, verset 9. Et Salomon va lui offrir une seconde chance. Il ne va pas le tuer. Il va lui offrir une seconde chance pour lui sauver la vie. Parce qu'il n'avait pas... Shimei n'avait pas provoqué Salomon. Il ne faisait pas partie des conjurés qui avaient voulu instaurer Adonijah. Il n'avait pas provoqué le roi Salomon, contrairement à Adonijah. Shimei, c'était avoir maudit le roi David, le père de Salomon, son tort. Alors Shimei, à l'époque, il n'y avait pas de bracelet électronique, comme aujourd'hui. Mais il va être sous liberté surveillée. Interdit de quitter la ville de Jérusalem. Alors ça a duré 3 ans, au bout desquels, eh bien, 2 de ses serviteurs se sont enfuis. En pays philistin. Et donc il va aller les chercher. Il quitte Jérusalem. Et il a violé ainsi son serment, serment qu'il avait fait à Salomon, de rester assigné à résidence. Shimei n'était pas plus fidèle à Salomon qu'il ne l'avait été envers David. Shimei avait prêté serment, et bien Salomon ordonnera à Benayahu de le mettre à mort, une fois rentré à Jérusalem. Les promesses divines garantissent toute justice en son temps. C'est vrai aussi par la grâce pour ceux qui se repentent. Les promesses divines garantissent toute justice en son temps par la grâce, en faisant grâce pour ceux qui se repentent. Shimei, il avait maudit David. Il avait eu beau maudire David, la bénédiction viendra quand même sur sa maison parce que Dieu l'avait dit, parce que Dieu avait promis et parce que Dieu avait fait une alliance avec David. Le roi Salomon sera béni. La malédiction de Shimei n'aura pas d'effet. Dieu a ainsi affermi la royauté de Salomon en éliminant tous ses ennemis qui ne lui étaient pas acquis. Et vous avez remarqué le petit mot « tout à fait », le verset 12, je crois. Salomon siégea sur le trône de son père David et son règne fut tout à fait affermi. C'est Dieu qui a affermi son règne. Effectivement, le règne de Salomon, ça sera un règne assez exceptionnel. Ça sera un règne de paix ininterrompu. Il n'y aura pas de guerre pendant son règne. Son autorité, sa renommée et même une prospérité lui seront incontestables pendant son règne. Le nom de Salomon veut dire pacifique. Pourtant, Salomon, descendant le fils de David, n'est pas la descendance promise à David qui apporterait la vraie paix, non seulement à Jérusalem, mais dans le monde. La paix éternellement. Salomon, à l'apogée de son règne, il se détournera. Il se détournera, séduit par beaucoup de femmes. Alors la promesse de Dieu, elle s'accomplira en la personne de Jésus qui est bien de la lignée de David. Jésus, le Fils de Dieu, né d'une vierge et de Marie. Né d'une vierge, et du Saint-Esprit. Alors peut-être vous vous dites, est-ce qu'il y a quelqu'un, je ne sais pas si c'est votre cas, mais est-ce que vous vous sentez victime d'une malédiction qui a touché votre famille par le passé? Et peut-être vous vous interrogez, est-ce que vous êtes encore sous cette malédiction? Alors c'est clair, si vous avez placé votre foi en Christ, vous n'êtes plus sous cette malédiction. Vous n'êtes plus sous cette malédiction, si c'est votre cas. Le Fils de Dieu a brisé, Jésus a été fait malédiction pour nous, lorsqu'il est mort sur la croix, portant la punition de nos fautes. Il a été fait malédiction. Alors bien sûr, nous sommes tous pécheurs, nous avons tous besoin de nous en repentir. Ce n'est pas le temps qui effacera les péchés, aussi long soit-il. C'est la confession des péchés, c'est la repentance et la foi en Jésus qui efface les péchés. Le temps n'efface rien. En témoigne la rébellion d'Adonija qui n'avait jamais reçu de reproche. Un sursis lui avait même été accordé. Salomon lui avait fait grâce à une condition, vous vous rappelez la fin du chapitre 1, c'est qu'il se montre un homme de valeur. Verset 52 du chapitre 1. Le problème, c'est qu'Adonija, effectivement, Salomon lui a fait grâce. Mais son cœur n'avait pas changé. Son cœur était toujours aussi orgueilleux, il convoitait encore le trône. Dieu nous dit en 1 Pierre 5, verset 5, « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Adonijah n'avait pas changé, même si Salomon lui avait fait grâce. Il avait besoin d'un changement de cœur. Ce changement, eh bien, il est aujourd'hui possible depuis que Jésus est venu. En plaçant votre foi dans le sacrifice de Jésus, vous vivrez, si ce n'est pas encore le cas, vous vivrez ce changement de cœur. Vous rentrez dans la maison de Dieu, dans sa maison, l'Église, et vous recevez sa bénédiction qui brise toute malédiction qui ont pu être portée pour vous. Les hommes peuvent vous maudire, la bénédiction de la maison de David durera éternellement. David le dit lui-même en 1 Chronique, chapitre 17, verset 27. Veuille donc bénir la maison de ton serviteur, afin qu'elle subsiste à toujours devant toi. Et regardez la fin de ce verset magnifique. « Car ce que tu bénis, ô Éternel, et béni pour l'éternité. Amen. Il y a encore d'autres applications pour nous, l'Église, de ce récit. On peut tirer encore quelques applications. David voulait que Salomon et ses fils, après lui, gardent la parole de Dieu. C'est aussi le souhait de Jésus pour nous, son Église, que nous gardions la parole de Dieu. Nous sommes sa maison. Au moment de quitter les siens, Jésus a dit en Jean chapitre 14, verset 23, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et les paroles que vous entendez, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. » Ce n'est pas seulement pour les filles, pour David et pour ses fils, c'est aussi pour nous, de garder la parole de Dieu. C'est son souhait. C'est aussi le signe que nous l'aimons. Peut-être aussi vous aspirez à la paix. Qui n'aspire pas à la paix? Eh bien nous, à l'Église, nous avons les moyens d'avoir la paix, la vraie paix. Lorsque Jésus reviendra, les comptes seront définitivement réglés. Quoi qu'on ait fait. Parce que les promesses divines garantissent toute justice en son temps. Vous aspirez à la paix. Le règne de paix de Salomon, quand est-ce qu'il est arrivé? Une fois qu'il avait éliminé ses ennemis. Jésus-Christ veut régner. Où est-ce qu'il veut régner? Dans ton cœur et dans le mien. Et lorsque le chrétien écarte de sa vie tout ce qui empêche Christ de régner, c'est là qu'il connaît la paix. Si nous voulons laisser le Seigneur régner en nous, dans notre cœur, nous connaîtrons la paix. Si nous l'avons non seulement comme notre Sauveur, mais comme notre Seigneur. Si nous voulons qu'il règne sur nous, nous connaîtrons la vraie paix. Pour les incroyants, Dieu est juste. Et de même que David a donné des consignes à son fils Salomon pour exercer le jugement, Dieu jugera à la fin des temps, à son retour. On n'y est pas encore, c'est encore le temps de la grâce, mais à la fin des temps, Dieu jugera par son fils Jésus. Tous ceux qui ne voulaient pas, qui n'ont pas voulu que Jésus règne sur eux. Jésus est le prince de paix, ceux qui ne veulent pas du prince de paix. Voici ce qui leur arrivera. En Luc chapitre 19, verset 27, au retour de Jésus donc, « Au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, et tuez-les en ma présence. » Ça c'est pour la fin des temps, tous ceux qui auront rejeté la grâce de Dieu. Nous sommes encore dans le temps de la grâce, il y a encore temps de demander de recevoir le pardon en Christ et d'avoir la vraie paix. De même que David a donné les consignes à son fils Salomon pour exercer le jugement, eh bien, Dieu, c'est le Père. Je vous lis Jean 5, verset 22. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, Jésus. Jésus est celui qui fait grâce, il est aussi le juge de ceux qui ne l'auront pas accepté à son retour. Mais il y aura une paix éternelle pour tous ceux qui auront cru en lui. La paix, la vie éternelle, il y aura aussi des récompenses en plus, en fonction de ce que nous aurons fait pour lui, en fonction des bonnes œuvres que nous aurons faites pour lui. Regardez, Benayahou, les fils de Barzillai et de Tsadok ont manifesté courage et loyauté envers David. Ils ont été fidèles à David. Eh bien, autant les fils de David, ceux qui sont restés fidèles à Salomon et à David ont eu leur juste rétribution, à plus forte raison, ceux qui sont restés fidèles au fils de David, à Jésus, auront-ils aussi leur juste rétribution. Amen. Je vais prier. Seigneur, je te remercie parce que tu nous rappelles, Seigneur, que oui, tu nous aimes, tu nous fais grâce, Seigneur, tu nous accueilles toujours lorsqu'on vient à toi, parce que nous sommes encore, Seigneur, dans ce temps de la grâce. Et merci, Seigneur. C'est vrai que, Seigneur, la vraie paix, elle viendra lorsque tu reviendras. Et en attendant, tu nous donnes déjà ta paix dans notre cœur. Alors je te prie, Seigneur, de... Voilà, Seigneur, que tu règnes, Seigneur, que tu règnes dans nos vies, Seigneur, et que, Seigneur, on fasse l'expérience que de te laisser les rênes nous apporte ta vraie paix. Qu'il y ait, quelles que soient les circonstances, quelles que soient... on sait que ce monde n'ira pas en s'améliorant, Seigneur, ça va même aller en s'empirant jusqu'à ce que tu reviennes. Mais la joie, elle est possible, comme on l'a chanté tout à l'heure, Seigneur, et ta paix, elle est possible, parce que tu nous la donnes, Seigneur, de façon surnaturelle, indépendamment des circonstances. Alors donne-nous cette grâce, Seigneur, de te rester fidèle, de compter sur ta grâce, de t'aimer, de garder ta parole, Seigneur, de te faire confiance, d'être patient. Et, Seigneur, d'être comme tu veux que nous soyons dans ce monde, Seigneur, et que nous soyons que nous reflétions Jésus. Seigneur, ce monde qui a tant besoin de toi, qui ne te connaît pas. Merci Père, parce que tu as un plan pour nos vies, et tu veux utiliser notre Église, même si elle n'est pas grande, Seigneur, mais c'est toi qui bâtis ton Église. Et je te bénis pour ton plan que tu as pour chacun d'entre nous. Donne-nous, Seigneur, de vivre ce plan chacun pour nos vies individuelles, chacun dans la situation où nous sommes, que nous le vivions individuellement, aussi en famille, aussi en Église, à l'intérieur de l'Église, et aussi en regardant ceux de l'extérieur, ceux que tu veux encore appeler dans ta bergerie. Au nom de Jésus. Amen.